Ce matin, on poursuit notre série pour accompagner notre lecture du livre « Dieu et l'Évangile ». Hein, c'est de la gymnastique, on plonge dans ce livre-là, on explore, on découvre des choses sur Dieu qu'on ne maîtrise peut-être pas, qui sont des fois un beau challenge, un beau défi de compréhension. Ceux qui sont sur Facebook, joignez-vous au groupe « Dieu et l'Évangile ». On fait des méditations deux fois par semaine. Des fois, ça nous permet de rendre encore un peu plus pratique des idées qui sont parfois complexes dans le livre, mais on veut vraiment plonger. Et le titre, c'est « Dieu et l'Évangile ». Si Dieu est l'Évangile, ça veut dire que Dieu est la bonne nouvelle. Et à quelque part, ça veut dire qu'être en relation avec Dieu, dans une communion intime avec Dieu, vraiment prendre plaisir à la personne de Dieu, bien, en fin de compte, c'est ça la bonne nouvelle, c'est d'aller auprès de Dieu. Alors ce matin, ce qu'on fait, on s'en va dans le psaume 63. Il y a plusieurs psaumes où on voit le psalmiste, souvent David, vraiment, je vais le dire comme ça, jouir de la présence de Dieu, avoir beaucoup de bonheur, un bonheur même extrême, incomparable, à être dans la présence de Dieu. Et peut-être qu'il y a d'autres psaumes qui sont aussi intenses que le psaume 63, mais il n'y en a aucun qui est plus intense que le psaume 63. On sent vraiment l'amour de David pour son Dieu, le bonheur profond qu'il expérimente dans la présence de Dieu, combien Dieu le comble entièrement. Et juste avant de faire la lecture, avant de dire un mot de prière, je veux vous mettre en contexte, parce qu'il y a un contexte à ça. Nous autres, on imagine David, l'exalté, qui rentre à Jérusalem avec l'arche, puis c'est la fête, c'est festif. On imagine David qui va louer dans le tabernacle, puis qui est vraiment dans l'abondance. En plus de ça, c'est un roi, il est dans la richesse. Mais le contexte de ce psaume-là, hein, c'est dans le désert. David est dans le désert, et à la fin du psaume, il va se présenter comme le roi. Donc, il est en fuite dans le désert, poursuivi par des ennemis alors qu'il est roi. Si vous connaissez un peu l'Ancien Testament, il ne s'agit pas de toute la longue période avant qu'il ne devienne roi où Saül le pourchassait. Il est déjà roi. Et donc, de qui est-il en train de fuir? De son fils Absalom. Il est en train de fuir de son fils Absalom qui veut prendre sa place sur le trône et qui est à sa poursuite pour le mettre à mort. Ça, c'est les circonstances de ce psaume. C'est très important d'avoir le contexte, parce qu'on va voir un David qui est en louange, qui est en adoration, et les circonstances de sa vie à ce moment-là, c'est qu'il est pourchassé, il est au désert, pourchassé par son fils Absalom, qui en veut à sa vie, qui veut le mettre à mort. Alors, je ne sais pas quelles sont les circonstances de votre vie, qu'est-ce que vous traversez actuellement, mais on va voir qu'il est possible de prendre plaisir en Dieu, par la grâce de Dieu, dans les circonstances les plus difficiles de nos vies. Et peu de vies sont comparables à la vie de David, au drame qu'il est en train de traverser. On va aller ensemble dans un mot de prière, puis on va écouter la lecture de la parole de Dieu. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence, parce que tu es notre Seigneur, tu es notre roi, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Père, on vient auprès de toi parce que nous voulons apprendre à t'aimer. On veut apprendre à prendre plaisir en toi, Seigneur. À être transporté dans ces moments de grande joie, de profonde joie, de bonheur, d'allégresse, comme dirait David, Seigneur, alors qu'on va dans la louange, alors qu'on chante tes louanges, alors qu'on ferme les yeux dans la prière, alors qu'on te contemple, comme le dit David ici. Seigneur, on veut apprendre à te savourer comme un mets succulent. Et Seigneur, je sais que c'est un défi pour plusieurs. Pour plusieurs, la louange, l'adoration, ça peut sembler théorique, intangible, quelque chose de loin, de distant. Et pourtant, Seigneur, tu es réel, tu es vrai. Viens nous parler par ton Esprit Saint. Quelles que soient les circonstances actuelles de nos vies, viens nous parler, Seigneur. Et si quelques personnes entendent ce message et ne te connaissent pas encore intimement, se posent la question, mais pourquoi Dieu serait-il tellement satisfaisant, viens parler à leur cœur, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen.
Ce matin, le passage biblique est tiré des psaumes. Le psaume 63, les versets 1 à 12, dans la nouvelle édition de Genève. Le psaume 63, versets 1 à 12. dans la nouvelle édition de Genève. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai dans toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals, et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Amen.
Mon son est off, mon son est on. Merci. Désolé, il y avait un bel enthousiasme pourtant. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Dieu est à la fois tout ce que nous désirons vraiment et le seul qui nous comble entièrement. Et il s'est donné à nous en son Fils. Trois points ce matin qui se retiennent bien, j'espère. Dieu mon désir, Dieu mon délice, Dieu ma défense ou mon défenseur. Je les répète, Dieu mon désir, Dieu mon délice, Dieu ma défense ou mon défenseur. Dieu mon désir. Regardez le verset 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Il le vit dans ses tripes. C'est un désir, pratiquement le désir que tu as pour ton amoureuse. Il le ressent, c'est physique. C'est quelque chose qui vit intérieurement, mais ça affecte tout son corps. Il dit, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, à l'intérieur de lui, ses pensées, mais mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Les circonstances de notre soif de Dieu. J'ai pris le temps de le dire tout à l'heure parce que je voulais que vous écoutiez la lecture de ce psaume-là en ayant un peu de mise en contexte. Les circonstances de ce psaume sont absolument dramatiques pour David. David est au plus bas de sa vie, j'oserais dire. En termes d'accomplissement, en termes de vie que tu construis, en termes de bâtir quelque chose, un héritage, bâtir quelque chose, une legacy qu'on dirait en anglais, il est au plus bas de sa vie. Écoute, il est poursuivi par son propre fils qui veut l'assassiner. Certains d'entre nous, on vit notre foi en Dieu, puis on se sent seul dans la foi. Je ne sais pas si tes enfants sont au Seigneur, si ton conjoint est au Seigneur, ou peut-être que tu vis seul, puis tu es le seul de ta famille qui est au Seigneur. Puis il y a ce sentiment-là de dire, mais personne ne comprend ce que je vis vraiment. Personne ne comprend cette joie-là que j'ai en Dieu. Je me sens seul et incompris. Bien, moi, je ne me suis pas rendu à l'endroit où un de mes enfants voudrait attenter à ma vie. Non seulement il rejette mon Dieu, mais il me rejette moi au point de vouloir m'assassiner pour prendre ma place, prendre l'héritage du trône. David avait tout atteint, il était roi, il régnait, il avait la prospérité, il avait la richesse, il avait le pouvoir, il avait l'autorité. Il est en fuite au désert. Il allait adorer Dieu dans la maison de Dieu. Il allait célébrer Dieu. Il était accueilli comme le roi qui adore Dieu, le roi qui a un cœur selon Dieu. Il est en fuite au désert poursuivi par son fils qui veut l'assassiner, par les gens qu'il a établis dans la prospérité et qui l'ont trahi pour faire alliance avec son fils. Mais son drame ne s'arrête pas là. La vérité, c'est qu'il a semé un peu tout ce qu'il récolte. Je veux dire, David n'a pas toujours été un homme droit, ça a été un homme fourbe, un menteur. Il a planifié un meurtre, une mise à mort, parce qu'il avait voulu une femme qui n'était pas la sienne. J'oserais dire que David était un homme à femme, parce que Dieu tolérait la polygamie, bien que ça n'ait jamais été dans le plan de Dieu. Et ça a entraîné un paquet de problèmes dans sa famille. Mais David aimait ses enfants tellement, il aimait Absalom tellement, qu'il était même aveuglé d'exercer la justice. Je ne sais pas c'est quoi votre rapport avec vos enfants, avec vos proches. Je ne sais pas si des fois vous vous dites, oui, mais ce que je vis comme drame, dans le fond, je récolte ce que j'ai semé. À quelque part, c'est mes fautes du passé qui me poursuivent. David, c'était littéralement ça, vous comprenez? Il est au désert, son fils veut l'assassiner. À quelque part, il est à l'origine de tout ça. Si vous connaissez bien son histoire, il est à l'origine de tous ses malheurs. Ça, c'est les circonstances de son adoration. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas si tu as des problèmes de santé, si tu te sens seul, si tu es le seul à être chrétien dans ta famille. Je ne sais pas si tu as perdu ton emploi, tu as perdu ta prospérité, tu es en fuite au désert. Tu traverses un désert. Tu traverses un grand désert, aride, desséché. Ça, ce sont les circonstances de la vie de David où il va adorer Dieu. Et où il va écrire un des psaumes les plus riches et les plus beaux sur l'amour qu'il a pour son Dieu. Je ne sais pas quelles circonstances tu traverses, puis je ne dis pas ça légèrement, mais je dis ça pour te dire que parfois c'est dans ces moments-là que Dieu vient se faire connaître à nous d'une manière exceptionnelle, d'une manière extraordinaire. Ce sont les circonstances de notre soif de Dieu. Je ne sais pas quelles sont les circonstances que tu traverses, mais c'est le bon moment pour avoir soif de Dieu. Avoir soif de celui qui peut remplir ton cœur de chants d'allégresse alors que tu traverses un désert dans ta vie. Dieu, notre désir, mais c'est parce que Dieu est notre plus grand besoin. Dieu est fondamentalement notre plus grand besoin. On est distrait par toutes sortes de désirs qui font qu'on se dit « ça pourrait me rassasier, ça pourrait me satisfaire ». Mais fondamentalement, profondément, réellement, la manière qu'on a été créé dans notre être, notre plus grand besoin, c'est Dieu. Puis tu peux te faire croire que tu as d'autres choses qui sont des besoins plus grands encore que Dieu, qui pourraient être comblés, qui pourraient être rassasiés. Peut-être que Dieu t'accordera la grâce de les obtenir pour que tu réalises que ça ne te rassasie pas. Et pense aux plus belles choses de la terre. Hein? Parce que je ne suis pas en train de noircir des choses qui sont belles. Je veux dire, tu veux l'amour, tu veux te marier, tu veux des enfants, tu veux réussir une carrière, tu voudrais t'acheter une maison, tu voudrais être en santé. Je ne sais pas, tu veux faire des choses pour la société. Tu veux partir un organisme avec des causes sociales pour prendre soin des gens dans le besoin. Tu veux faire des découvertes. N'importe quoi. Il y a un besoin qui est plus grand que celui-là. Et c'est Dieu. C'est Dieu qui est ce besoin plus grand. Jésus, un jour, est en train de voyager avec ses disciples, puis il va de ville en ville pour enseigner, puis il s'arrête à un puits, puis ils doivent manger. Les disciples vont pour magasiner au village de la nourriture, puis il attend auprès du puits, puis il y a une femme qui se présente qui est une Samaritaine. Puis Jésus a soif, il lui demande « Est-ce que tu pourrais me donner à boire? » Puis il commence à jaser avec elle. Puis Jésus lui dit ceci. Il dit, « Quiconque boit de cette eau, l'eau que tu vas me donner, j'ai soif. Mais quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Je veux dire, l'eau, c'est merveilleux. Hein, par un bel été où il fait chaud, puis tu rentres à la maison, puis tu te sers un verre d'eau froide. pour de vrai, là, c'est vraiment délicieux, c'est vraiment incroyable. Mais tu vas avoir encore soif. Et tout ce qui pourrait rassasier ton âme dans cette vie, que ce soit l'amitié, l'amour, la santé, le travail, peu importe, ça va toujours te laisser fondamentalement avec quelque chose qui n'est pas comblé, que Dieu seul peut combler. Dans cette rencontre-là que Jésus fait avec cette femme samaritaine, il poursuit en disant, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, » en parlant de lui-même, Jésus, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Il dit, « Si moi je te nourris, si t'es rassasié de cette eau qui vient de Dieu, qui vient de Christ, non seulement tu n'auras plus soif, mais tu vas pouvoir abreuver d'autres personnes avec l'évangile de Jésus-Christ, avec cette vie qu'il y a en Dieu. Toi-même, tu vas devenir une source de vie parce que tu vas porter en toi cette vie-là de Dieu. » David est au désert, il est en fuite, son fils veut l'assassiner, ses amis l'ont trahi, il lui reste quelques hommes fidèles. Il a perdu toutes ses richesses. Et pourtant, David, dans le désert, est une source de vie. Quand tu lis le psaume, ça te fait du bien. Tu vois cette joie-là qui dépasse tous les déserts de nos vies. Comment ça se fait que David vit ça? Parce que c'est Dieu qui vient combler son âme. Dieu seul peut vraiment nous rassasier. Et donc, tous les êtres humains ont ce désir profond, un désir qui ne peut être comblé que par la personne de Dieu. Que tu l'admettes, que tu le vois ou non, que tu te dises, écoute, j'ai parlé avec des chrétiens, puis il n'y a rien là-dedans pour moi, j'ai même pas ces désirs-là. Bien, avance dans la vie, fonce dans la vie, mais garde cette question-là à quelque part. Est-ce que ça se peut? Est-ce que ça se peut que ces millions de personnes qui ont cru en Jésus-Christ, est-ce que ça se peut qu'ils aient découvert quelque chose que la vie ne t'offrira pas? Garde ça en tête. Jusqu'à ton dernier souffle, tu peux venir boire à cette source-là, qui est Jésus-Christ. Et c'est intéressant, je veux faire un parallèle avec Jésus qui nous enseigne à prier. Parce que Jésus, dans son humanité, est aussi, comme David, un modèle d'adorateur. David est au désert, puis on va vers lui, puis on dit, « OK, ça doit être ça de triper sur Dieu, puis vraiment aimer Dieu, puis l'adorer, puis se mettre à se lancer en louange, puis à travers les épreuves, toutes les circonstances de ta vie, à travers toutes les difficultés de ta vie, vraiment être rassasié de Dieu. » Mais Jésus est vraiment le Fils de Dieu parfait. Puis lorsqu'il nous enseignait à prier, dans Matthieu 6, verset 9, il dit, « Voici donc comment vous devez prier. » Je présume que c'est comme ça qu'il priait. Il dit, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé, que ton nom prenne toute la place dans mon âme. Mon Père qui est au ciel, que ton nom soit tout pour moi. » Et c'est ça que ça veut dire, sanctifié, c'est qu'il est mis à part, qu'il soit unique, que dans mon esprit, il n'y ait rien de comparable à ton nom, Seigneur. Et il faut savoir que dans le contexte de la Bible, lorsqu'on parle du nom, on parle de la personne. Ton nom, ça veut dire toi. Toi tel qu'on t'interpelle, toi tel à qui on s'adresse, avec quel nom on t'appelle. Mon Père qui est au ciel, que ton nom soit tout pour moi. Qu'il soit à part, qu'il soit unique à mes yeux. Vous savez, lorsqu'on côtoie Jésus dans les évangiles, puis on voit qu'il part pendant la nuit, puis là, il s'en va prier, puis on voit son intimité avec le Père, puis là, on est là, puis on se dit, « Ah, j'aimerais tellement ça, vivre ça. J'aimerais vivre cette intimité avec le Père. » Mais premièrement, c'est clairement possible de le vivre. Tu dis, « Non, mais c'était Jésus. » Oui, mais Jésus veut qu'on vive, qu'on soit un avec le Père comme il est un avec le Père. C'est ce qu'il dit dans Jean. Ce n'est pas quelque chose seulement pour Jésus. Il est devenu un homme pour que nous entrions dans cette joie-là que lui avait avec son Père. Cette prière de David dans le psaume 63, cette intimité avec le Père, ce n'est pas quelque chose qui est inaccessible, qui n'est pas là pour toi. C'est un mensonge de croire ça. Non seulement Christ est venu pour nous montrer comment adorer, mais il nous a donné son esprit pour nous donner un cœur d'adorateur. À l'Église de l'Espoir, on veut être émerveillé par l'Évangile de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on résume notre vision de l'Église. On veut être une Église émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ au service de la communauté. Notre service, notre joie, tout ça vient de notre émerveillement. On veut être émerveillé par ce que Christ a fait. On veut être émerveillé par Dieu. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit tout pour nous. C'était le désir de Christ. Il allait dans la prière et il avait le même désir que David. Vivre cette intimité avec son Père. Être auprès de son Père. Dieu, mon désir. Dieu, mon désir. Et j'espère que si ce n'est pas quelque chose que tu vis tous les jours, j'ai mis un peu en toi cette semence-là de désirer. Désirer vivre cette joie que David vit ici. Dieu, mon désir. Mais ça ne s'arrête pas là. David est rassasié. Dieu, mon délice. Ce n'est pas simplement une soif. C'est quelque chose qui vient combler. Tu n'es pas en reste avec Dieu. Tu peux goûter Dieu, goûter sa grâce, goûter sa présence. Maintenant, regardez comment David s'adresse à lui au verset 2. « Ô Dieu, mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. » C'est intéressant cette idée-là que le Créateur de l'univers devient « mon Dieu à moi » comme Esther est devenue mon épouse, je suis devenu son mari. Hein, le petit prince de Saint-Exupéry. Esther n'est pas une rose parmi les roses, c'est ma rose. Bien, Dieu n'est pas simplement un créateur distant pour David. Il est devenu son Dieu. Ô Dieu, mon Dieu. Non seulement le Dieu de mon père, le Dieu de mes ancêtres, le Dieu d'Abraham, mais mon Dieu à moi. Et c'est ce que Dieu désire profondément. Dans Genèse 17, 8, on lit, « Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession, et je serai leur Dieu. » Je serai leur Dieu. J'arrive ensuite dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Hébreux. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dieu désire être ton Dieu. Et si tu es en cheminement par rapport au christianisme, tu cherches, tu te poses des questions, c'est peut-être la foi de tes parents, tout ça, c'est peut-être le Dieu des chrétiens, bien, tu vas savoir à quelque part que tout est transformé pour toi quand Dieu va devenir ton Dieu. Je ne peux pas le posséder, je ne peux pas posséder Dieu. Mais en même temps, il s'est donné à nous dans la personne de son Fils. Est-ce que tu peux te donner à quelqu'un plus que de donner ta vie pour lui? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Christ s'est donné pour toi. Il s'est donné à toi afin de devenir ton Dieu. Et donc, le secret de David pour que Dieu devienne son délice, c'est qu'il est son Dieu. Il y a quelque chose qui est là. David n'est pas en train d'explorer Dieu, aller vers la connaissance de Dieu. David connaît Dieu et il est son Dieu. Mais il dit qu'il comble son âme. Regardez le verset 6. « Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. » J'aime l'adoration de David parce qu'il prend quelque chose qui peut être extrêmement théorique puis il nous donne des images très concrètes. Il dit, j'ai soif. Vous savez, c'est quoi avoir soif quand tu as travaillé fort, puis il fait chaud à l'extérieur, puis hein, tu te donnerais ta paye pour un verre d'eau. Mais il dit, Dieu va rassasier mon âme comme un mets succulent rassasie mon ventre, me comble. Voyez-vous, le désir dans son corps, c'est dans ses tripes, c'est intense, comme tu tombes en amour, comme tu aimes tes enfants, tu le sens dans ton corps. S'il arrive quelque chose à tes enfants, ça fait mal en dedans. C'est très concret, c'est très réel. Tu apprends qu'il y a un ami que tu aimes intimement qui, je ne sais pas, il y a un désastre dans sa vie, il y a un accident de voiture, il y a un cancer, ça fait mal en dedans. Mais David désire avec son corps être près de Dieu. Puis il dit, mon âme va être rassasiée comme d'un mets succulent. Dieu te comble comme un bon repas où tu es repu à la fin, tu es comme, OK, ça c'est, vas-tu prendre une marche? Je suis comblé de Dieu. Je suis comblé de Dieu. Je suis comblé de Dieu. Dieu est celui qui me comble et qui me transforme. Regardez ce qu'il dit au verset 6. Il dit, « Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. » C'est intéressant, dans le psaume, il élève les mains, il loue Dieu avec son corps. Il dit, « Des cris de joie vont sortir de mes lèvres, tellement je vais être heureux, tellement je vais être comblé, tellement je vais être content. » Je ne sais pas si vous voyez, mais à travers tout ce psaume-là, la louange est constamment présente. Les chants de louange. Les chants de louange. Entretenez-vous par des hymnes, des cantiques. Lorsqu'on vient chanter ensemble, on vient chanter notre âme devant Dieu, on vient déverser notre joie, on vient se donner écho les uns aux autres à cette joie-là avec l'équipe de louange. C'est ça qu'on fait. Littéralement, on est en train de dire à Dieu combien on l'aime. Mon épouse a fait quelque chose de spécial que j'aurais jamais osé faire parce que ça aurait été un désastre. Mais à nos noces, elle a chanté ses vœux. Elle m'a chanté ses vœux. Elle les a écrits sur une pièce de musique, puis elle m'a chanté ses vœux. Elle m'a chanté son amour. Et à travers tout ce psaume-là, David chante son amour à Dieu. La louange, le chant dans l'Église, ce n'est pas une espèce d'apparat, tu sais. On a besoin d'un bon message pour se nourrir, puis on va mettre un petit peu de fleurs autour de ça. C'est toujours plus beau accompagné avec un petit peu de fleurs. Tu sais, tu décores la table. Mais dans le fond, ce qu'on veut, c'est un bon beefsteak. Là, peut-être que vous, c'est un bon morceau de tofu, je ne sais pas. Mais tu sais, tu veux un bon repas. Puis là, tu mets un petit peu de fleurs là-dessus, un beau bouquet de fleurs, des roses. Puis c'est ça la louange. C'est comme pour mettre de quoi autour. Non, pas en tout, zéro. Pas du tout. C'est ce qui sort de moi lorsque j'entre en contact avec Dieu. Lorsque je contemple Dieu, ce qui sort de moi, c'est le désir de chanter combien il est beau. Peut-être que tu n'aimes pas chanter. Peut-être que tu dis, écoute, c'est comme, j'aime pas ça chanter. J'ai le goût de te dire, si tu deviens chrétien et tu me dis que tu n'aimes pas lire, tu n'es pas obligé d'apprendre à aimer lire, à part la Bible. Tu n'es pas obligé de lire aucun autre livre dans ta vie, mais apprends à aimer lire la Bible. Si tu n'aimes pas chanter, tu dis, écoute, j'ai une voix de crécelle. Apprends à aimer chanter des louanges à Dieu. C'est là à travers toutes les Écritures. Parce que aimer Dieu, c'est quelque chose qu'on vit dans notre corps, qu'on ressent. Ce n'est pas simplement une idée. Dieu n'est pas une belle idée séduisante. Non, si tu es un gars, Dieu est la plus belle femme qui voudrait t'épouser au monde. Littéralement, il est la plus belle personne au monde. Si tu es une fille, c'est comme l'amoureux par excellence. C'est ça qu'il est, c'est une personne à qui je veux déclarer mon amour parce qu'il m'a déclaré son amour sur la croix. Et je veux répondre à cette déclaration d'amour-là par mes chants de louange. Par mes chants de louange. Et c'est pour ça que les chrétiens chantent depuis des siècles. Et c'est pour ça qu'on va chanter dans l'éternité encore. Dieu mon désir, Dieu mon délice. Je termine avec ceci. Dieu ma défense, Dieu mon défenseur. Parce que je veux revenir aux circonstances de David. On le perd facilement de vue. David est au désert en train de se sauver. Son fils veut le mettre à mort. Sa vie est littéralement en danger. Et pourtant, David éprouve un véritable sentiment de sécurité. est poursuivi par son fils qui veut le tuer. Je ne sais pas s'il y a des choses, des circonstances dans ta vie qui t'effraient. Il m'arrive souvent d'avoir peur. Si je n'étais pas honnête avec moi-même, je me dirais, « Ah non, moi, je suis toujours cool, je suis toujours confiance en Dieu. » Mais non, des fois, je sens de l'anxiété, puis là, je dis, « je vais entendre qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Je vais aller dealer avec cette anxiété-là. Ça vient d'où? Qu'est-ce qui se passe? » David est en fuite, il est au désert, sa vie est en péril, son fils veut l'assassiner littéralement. Regardez ce qu'il dit au verset 8. « Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. » David n'est pas à Jérusalem, il ne peut pas aller dans le tabernacle pour adorer Dieu, puis pourtant le sanctuaire de Dieu est là pour lui au désert, parce que son Dieu est avec lui. Il dit « Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. » Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Je ne sais pas combien de fois, lorsque je vis des moments d'anxiété, des moments de défi, des moments de fatigue où je dis, « Seigneur, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup de défis, la tâche est trop grande pour moi. » Puis je vais dans la prière et l'image qui me vient, vous savez peut-être que j'aime les arts martiaux, mais l'image qui me vient, c'est vraiment celle de David où il est ma droite qui me soutient. Puis je dis, « Seigneur, soutiens mon bras pour le combat. Je suis à ton abri, je suis sous ton aile, je m'élance dans le champ de bataille. » Et là, je suis prêt à faire face à toutes les anxiétés de la vie parce que je sais que je m'élance dans ce champ-là avec Dieu à ma droite. Est-ce que ta santé est en train de te laisser tomber? Est-ce que demain est incertain? Est-ce que ton couple va mal, les relations ne vont pas bien? Tu te sens seul? Tu dis, je ne sais pas qui je suis dans ce monde-là. Le monde me fait peur. Ça fait un an et demi qu'on a peur. Tu dis, je ne sais pas c'est quoi l'avenir de l'humanité. Les jeunes sont dévorés par ça. Est-ce que l'humanité va survivre? Est-ce que je devrais avoir des enfants? Est-ce que je devrais me marier? Ça a l'air qu'on va tous disparaître dans 9 ans. David est au désert. Ça a l'air qu'il va disparaître dans quelques semaines. Vous comprenez, il est au désert, il est en train de se renseigner. Il y a des scouts, des éclaireurs qui sont en train de dire, « OK, où est-ce qu'il est? Quelles sont les manœuvres? On se déplace, on se met en sécurité, on s'en va là-bas, qu'est-ce qui se passe? » Il y a des informateurs à la cour qui sont auprès d'Absalom pour pouvoir l'informer où est-ce qu'il s'en va. Et pourtant, David est en train de dire ici, « Car tu es mon secours, je suis dans l'allégresse, à l'ombre de tes ailes, mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. » Puis le contexte est dramatique. « Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre, ils seront livrés au glaive. » Ils seront la proie des chacals et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre. On va passer à la louange, mais je veux vous laisser avec vraiment une perle qui est à la fin du psaume, qui est pour nous aujourd'hui comme chrétiens, comme fils et filles du roi, comme frères et sœurs de Jésus-Christ. À la fin du psaume, David dit, « Et le roi se réjouira en Dieu. » Il est au désert, dans un sens, il a perdu sa couronne. Il est en fuite de son fils qui a décidé de prendre son trône. Il a été trahi. Mais David connaît son identité. David sait qu'il a été choisi par Dieu. Et donc, à la toute fin, alors qu'il est en fuite, tu dis, mais c'est quoi ton espoir, David? Où tu t'en vas? Mais il dit, je suis roi d'Israël. Jusqu'à ce que Dieu décide que je ne sois plus roi, c'est moi le roi d'Israël. Je peux être en fuite au désert. Je sais qui je suis. Dieu m'a appelé. Dieu m'a mis à l'écart. Dieu m'a mis à part pour être roi sur Israël. Dieu m'a appelé. Dans Apocalypse, au chapitre 1, versets 5 et 6, dernier livre de la Bible, c'est l'apôtre Jean qui parle et il dit ceci. « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, écoutez ceci, et qui a fait de nous un royaume, a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Si tu as cru en Jésus-Christ, tu es un sacrificateur de Dieu. Tu offres un sacrifice à Dieu par les œuvres de ta vie et par les louanges que tu offres à Dieu. Tu intercèdes en faveur d'un peuple québécois, canadien, qui ne connaît pas Dieu en faveur des hommes. Tu intercèdes en faveur de tes proches, de tes amis. Peut-être que tu es incompris, peut-être que tu traverses un désert, mais n'oublie jamais ton identité. Et le roi, dit David, va être soutenu par Dieu. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu fais partie du royaume de Dieu. Et l'issue de la bataille est déjà connue. L'issue de la bataille est déjà connue. Bientôt, très bientôt, les amis, on va être réunis avec Christ pour l'éternité. On connaît déjà l'issue. Notre Seigneur est notre défense, il est notre défenseur. Il va nous rendre justice, quelles que soient les circonstances de nos vies. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça cette semaine? Pour ceux qui aiment que ça devienne très concret, prends un temps avec toi-même cette semaine. Prends un temps avec toi-même pour commencer, puis pose-toi une question. Qu'est-ce que tu désires le plus? Quel est ton plus grand désir? J'ai commencé avec « Dieu, mon désir ». Mais sois honnête avec toi-même. Demande à Dieu de t'aider à être honnête avec toi-même. Quel est ton désir? Puis peut-être que tu vas dire, dans le fond de mes tripes, ce que je veux, c'est me marier. C'est triste à dire, Seigneur, mais c'est un plus grand désir, on dirait, que de désirer Dieu. Quel est ton plus grand désir? Je ne sais pas c'est quoi. Je donne ça comme exemple, je pourrais donner plein d'exemples. Donc, première chose à faire cette semaine, prends un temps avec toi-même, identifie c'est quoi ton plus grand désir. Deuxièmement, pose-toi la question, est-ce que vraiment tu crois que si Dieu te donnait ça, ça te comblerait davantage que Dieu? Crois-tu vraiment ça? Si tu es un enfant de Dieu, tu sais au fond de tes tripes qu'une fois qu'il va t'avoir donné ça, c'est juste Dieu qui peut te combler. Dans le fond, personne ne peut te combler comme Dieu. Et la deuxième chose que je t'invite à faire, chante des chants de louange avec nous ce matin. Mets ton masque, on respecte les règles, mais chante dans ton âme. Chante cette semaine. Apprends à entretenir ton âme avec des chants d'allégresse, avec des chants de louange. Prends le temps de savourer combien Dieu est bon, parce qu'il nous a tout donné en nous donnant son Fils Jésus-Christ. On va aller dans la prière. Seigneur Jésus, on veut t'adorer ce matin. On vient te célébrer parce que tu es merveilleux. Tu es grand, tu es merveilleux. Père, tu es allé rencontrer David alors qu'il traversait le désert de sa vie, il était au plus bas de sa vie. Il semble avoir tout perdu. Il est poursuivi par un fils non seulement qui rejette Dieu, mais qui veut l'assassiner littéralement. Et qui pourtant, Seigneur, nous écrit ce psaume-là qui est un trésor de louange, d'adoration incroyable, Seigneur. Dieu est l'Évangile, Dieu est la bonne nouvelle. Tu es la bonne nouvelle, Seigneur, parce que tu es mon Dieu. Mon âme a soif de toi, et lorsque je viens dans ta présence, lorsque je m'arrête pour te contempler dans la nuit, dans les louanges, Seigneur, mon âme, mon corps est rassasié comme d'un repas extraordinaire, Seigneur, d'un repas merveilleux et succulent. Seigneur, on veut t'adorer ce matin. On vient dans la louange pour célébrer tes bontés, Seigneur, pour dire combien tu es merveilleux et combien toi seul comble nos plus grands désirs, Seigneur. Aide-nous à être honnêtes avec nous-mêmes. Aide-nous à considérer ce que nous désirons vraiment et à t'amener ça humblement, déposer ça à tes pieds. Reconnaître que toi seul peux vraiment nous rassasier, Seigneur. Que personne d'autre peut combler notre âme, que ce soit l'amour, la santé, le travail, les accomplissements, les amitiés, les causes de justice sociale, peu importe. Toi seul peux combler vraiment notre âme, Seigneur. Seigneur, reçois nos louanges ce matin. Reçois notre adoration. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.